le magazine citoyen avec la province Sud, une province citoyenne.
La province Sud, agir pour l'avenir.
Soyez les bienvenus dans ce magazine citoyen. Jean-François Bodin le disait tout à l'heure, on va prendre un peu de hauteur cette semaine. Il y a deux semaines, le gouvernement a présenté un projet de loi du pays visant à encadrer les opérations aériennes domestiques sur le territoire. Ces nouvelles réglementations concernent donc les exploitants commerciaux d'avions, d'hélicoptères ou d'ULM. Alors qu'en pensent les professionnels du secteur? Eh bien, on va leur poser la question ce midi dans le magazine citoyen. Jean-Michel Rio, le gérant de Caledonia Aviation, est dans nos studios. Günther Hickmann, le gérant de la société Ovol, ou encore Olivier Paul, responsable de Air Paradise. Et puis à nos côtés également Thomas Bertin, le directeur adjoint de l'aviation civile, et Christophe Bruny, chef du service de la sécurité de l'aviation civile. Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce midi, effectivement, pour ce magazine citoyen. Peut-être commencer par revenir sur la genèse de ce texte. Finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait des disparités entre la réglementation en Nouvelle-Calédonie et ce qui se fait en métropole ou en Europe plus largement. C'est l'idée du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
C'est l'idée du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, tout à fait, Nicolas. Et je pense que merci pour ce segment qui permet d'éclairer aussi l'ensemble des Calédoniens sur un sujet qui est important. On sait bien évidemment que le transport aérien en Nouvelle-Calédonie, c'est une donnée cartésienne de la vie quotidienne. Et en ce sens, en territoire insulaire, bien évidemment. Et en ce sens, c'est particulièrement appréciable de pouvoir parler de sécurité du transport aérien. D'habitude, dans les médias, c'est plus associé en réponse à des incidents graves ou des accidents tragiques. Donc c'est bien de pouvoir poser les bases de ce débat de manière directe. Sur l'écosystème aujourd'hui, la sécurité de l'aéronautique en Nouvelle-Calédonie, c'est l'engagement de passionnés, de professionnels, parfois les deux, qui sont des acteurs économiques importants pour le développement de la Nouvelle-Calédonie de manière large. On connaît très bien Air Calin et Air Calédonie, et même Air Loyauté, dont on parle souvent sur votre antenne. On connaît peut-être moins bien ceux qui contribuent à la sécurité du transport aérien de manière plus large et au développement économique de la Nouvelle-Calédonie. Je pense notamment à des exploitants aériens type Air Alizé, qui sont responsables des évacuations sanitaires en Nouvelle-Calédonie. Je pense on parle souvent des hélicoptères de la DSCGR, à savoir la sécurité civile, qui sont en fait un exploitant privé qui s'appelle Hélico-Océan, qui réalise des missions pour leur compte d'hélicoptères bombardiers d'eau, par exemple, dont on va reparler peut-être un petit peu plus en avant dans la discussion. Je pense aussi à l'ensemble des exploitants de drones qui contribuent. Je pense à l'ensemble des pompiers d'aérodrome, l'ensemble des organismes de formation du personnel navigant, donc des pilotes en tant que tels, dont on a un certain nombre de représentants parmi nous aujourd'hui. Je pense aussi aux contrôleurs aériens, prestataires d'information de vol, aux exploitants d'aérodromes, aux assistants d'escale. Tout ça, ce sont ce qui constitue aujourd'hui une richesse en Nouvelle-Calédonie, dans l'écosystème aéronautique, et qui contribue à la sécurité aérienne de manière large. La sécurité aujourd'hui, c'est vraiment la pierre angulaire de la pérennité et du développement de l'activité de l'aérien en Calédonie. On a un besoin fondamental de garantir, même si c'est un acquis aujourd'hui, la sécurité, puisque tout le monde considère que la sécurité aérienne est un acquis, c'est un acquis fragile qui nécessite une vigilance continue. Comment ça marche en fait? Pour éclairer peut-être vos auditeurs, la sécurité du transport aérien aujourd'hui, elle est notamment fondée sur des exigences techniques et de sécurité applicables à l'ensemble des acteurs de l'aviation civile, les pilotes, les membres de cabine, les assistants en escale, les mécaniciens, les organismes qui les emploient, qui ont des exigences propres, et pour lesquelles chacun de ces acteurs détiennent des autorisations ou des agréments techniques qui sont délivrés en Nouvelle-Calédonie par la direction de l'aviation civile, et en particulier par le service de la sécurité de l'aviation civile, pour exercer leurs fonctions. Dans ce cadre-là, ces exigences techniques et de sécurité, on parle vraiment de choses très techniques, en l'occurrence. Elles sont notamment fondées sur ce qu'on appelle les normes et pratiques recommandées de l'Organisation de l'aviation civile internationale, qui réunit tous les États dans le monde, et qui fait évoluer l'ensemble de ces règles dans tous les pans de l'aéronautique, pour, d'une part, assurer la sécurité et le développement du transport aérien, et d'autre part, prendre en compte le résultat des incidents graves et des accidents qui arrivent partout dans le monde. Donc chaque accident et chaque incident grave fait l'objet de rapports d'enquête de sécurité, c'est ce qu'on appelle un rapport d'enquête, produit par des organismes indépendants, c'est le Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile en France, le BEA, qui est déjà intervenu sur le territoire après les malheureux accidents qu'on a pu connaître par le passé, qui fait un certain nombre de recommandations de sécurité aux autorités de l'aviation civile, et ces autorités de l'aviation civile prennent en compte ces recommandations au titre de l'évolution de la réglementation, des exigences techniques et de sécurité. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre aussi, ça donne un cadre général, me semble-t-il, à la discussion, c'est en quoi est-ce que la Nouvelle-Calédonie est compétente dans ce domaine. La Nouvelle-Calédonie s'est vue transférer donc, la compétence qu'on appelle de police et de sécurité de la circulation aérienne au 1er janvier 2013, pour la circulation aérienne domestique. Donc depuis cette date, la Nouvelle-Calédonie et l'ensemble de ses institutions est responsable notamment de deux compétences majeures en matière de sécurité aérienne. La première, c'est la définition des règles, donc la définition des exigences techniques et de sécurité de l'ensemble des organismes et individus qui sont emportés par le transfert de compétences. En gros, tout ce qui est exploité strictement, stricto sensu, en Nouvelle-Calédonie. Et deuxièmement, la certification et la surveillance technique de l'ensemble de ces acteurs.
Et aujourd'hui, ça veut dire que le cadre réglementaire, il était dépassé, selon vous. Il fallait le mettre à jour. En fait, c'est quoi l'objectif de ce projet de loi du pays? C'est de refixer de nouvelles règles?
C'est de compléter les règles existantes, tout en assurant une actualisation de ces dernières, notamment pour prendre en compte l'expérience acquise au niveau international. La Calédonie s'est engagée, lors de ce transfert de compétences, et c'était le vœu des comités des signataires, à faire en sorte que, pour cette compétence qui est très technique, très dimensionnante et très évolutive, la Nouvelle-Calédonie s'était engagée, en tout cas c'était le vœu formulé par le comité des signataires à l'époque, de faire en sorte que ce transfert de compétences ne soit pas préjudiciable à la sécurité des Calédoniens, usagers du transport aérien, mais aussi bien évidemment à l'ensemble des acteurs du transport aérien, les membres d'équipage au premier chef. Donc dans ce cadre-là, la réglementation a continué à évoluer au niveau international depuis 2013. Certaines choses dans certains domaines, notamment la partie exploitant d'aérodromes, a évolué au cours de ces 10 dernières années en Nouvelle-Calédonie. La partie service de sécurité et de la lutte contre l'incendie des aéronefs a évolué en Nouvelle-Calédonie ces dernières années. L'exploitation ULM a évolué aussi en Nouvelle-Calédonie de manière ad hoc pour faire en sorte de suivre les évolutions du reste du territoire national au bénéfice premier des exploitants ULM eux-mêmes, parce qu'on peut bien imaginer que si on a des règles différentes, ça veut dire qu'un pilote ULM, qui serait détenteur d'un titre, d'une licence et d'une qualification délivrée en Nouvelle-Calédonie, ne pourrait plus exercer ses privilèges ailleurs sur le reste du territoire national. Et ça, c'est quelque chose qu'on a bien évidemment en tête lorsqu'on définit l'ensemble des règles associées. Il y a un domaine général, donc le domaine des opérations aériennes, c'est-à-dire les modalités, les exigences techniques applicables aux exploitants, vous l'avez mentionné, d'avions, d'hélicoptères, d'ULM et tout le périmètre connexe aux opérations aériennes. Ce domaine-là, aujourd'hui, il avait peu ou pas évolué. Donc le but, c'était de prendre l'expérience acquise au niveau international, d'élaborer un corpus juridique au travers de différents instruments, une loi du pays, une délibération, qui a le nom de délibération, comme pour la loi du pays, de délibération opération aérienne, et qui permettent d'habiliter le gouvernement dans un second temps à définir par secteur et par domaine d'activité les exigences techniques et de sécurité précises régissant ces activités. Aujourd'hui, juste pour vous donner un panel de la magnitude de la tâche, au niveau international, on a en gros 10 000 normes, c'est-à-dire exigences dans le dur, qui existent dans le domaine de l'aviation civile, et on a 100 millions de pratiques recommandées. Le but pour la Nouvelle-Calédonie, bien évidemment, c'était pas de réinventer la roue. C'était de regarder les expériences qui marchaient sur le reste du territoire national et au niveau international pour en récolter les bénéfices, parce que nous n'avons pas, comme par exemple en France, comme par exemple en Europe, en gros entre 50 et 300 personnes qui œuvrent quotidiennement à faire en sorte de faire évoluer les textes, les exigences techniques précises dans le domaine de l'aviation. Donc en ce sens, on s'est fondé sur les recommandations de sécurité qui avaient été émises sur l'ensemble des activités qui étaient propres à la Nouvelle-Calédonie. On s'est fondé sur l'ensemble des exigences prévalentes, que ce soit en Polynésie française, que ce soit à La Réunion, que ce soit aux Antilles, que ce soit sur le reste du territoire national, tout en les adaptant et en se donnant la capacité d'adapter aux justes besoins de la Nouvelle-Calédonie ces exigences, pour que ce soit à la fois les acteurs économiques du domaine qui en soient les bénéficiaires, et dans un développement orchestré et cadré en respect des exigences de sécurité associées.
Alors justement, tournons-nous vers ces professionnels qui sont autour de la table avec nous. Ce changement de réglementation, comment vous l'avez accueilli les uns les autres autour de la table? Qui veut prendre la parole? Parce que je suppose que pour vous, ça représente un certain nombre de changements aussi dans vos pratiques au quotidien, vos pratiques professionnelles, même si pour la sécurité, je suppose que vous étiez déjà au fait de tout cela.
Alors, nous, on a des hydravions à Poé. on amène des touristes voir le lago. Notre travail, nous, on a l'outil pour montrer la beauté de la Calédonie, en fait. On a pris des hydravions parce qu'on se sentait plus en sécurité. S'il y avait un problème, on pouvait poser n'importe où, à n'importe quel endroit. Et puis, vous savez, quand on est un opérateur, on a du mal à embaucher. Pourquoi ? Parce que la réglementation, elle nous bloque à 500 kilos. Les Kanaks qui viennent voler ou les Wallis qui viennent voler, on ne peut pas les prendre. À partir de 85 kilos, on ne peut pas les prendre. On a une masse maximale, on ne peut pas dépasser ça.
Bon, ça concerne toutes les ethnies, mais oui.
Ouais, mais je vous dis ça parce que ça nous fait du mal de refuser ces personnes-là. Ils sont nés ici, ils n'ont jamais visité du Gong. Il y a des choses comme ça. On a du mal à embaucher. On a du mal à embaucher parce que la personne qu'on embauche, elle doit être en dessous de 65 kilos. Sinon, on ne peut pas prendre ces gens-là. Donc en fait, on a une problématique aujourd'hui de trouver des pilotes.
Alors que votre appareil pourrait le faire, c'est la réglementation qui vous empêche.
Exactement. En fait, ces machines-là, elles volent aux États-Unis à 600 kilos. Elles volent en Europe à 600 kilos. Et en fait, on a des difficultés avec les constructeurs. Comme c'est des petits marchés, ils n'ont même pas envie de faire en fait une petite réglementation pour nous. Il y a peut-être 15 machines comme ça pour qu'on soit OK pour pouvoir avec la DGAC, par exemple. Donc la problématique, c'est un gros problème. Donc en Europe, pas en France, en Europe, on est à 600 kilos pour l'ultra léger motorisé, pour l'ULM, l'ultra léger. Et ici, on est en Calédonie. Okay, on n'a pas les mêmes petits, on n'a pas les mêmes. Donc ça serait pas mal si on pouvait adapter. On a la possibilité, le gouvernement a la possibilité de le faire. Pour nous, ça serait bénéfique. Parce qu'on prendrait plus de monde et on pourrait embaucher du monde. Aujourd'hui, on est bloqué par rapport à ça. Donc, on est obligé de refiouler toutes les heures. C'est la première problématique, c'est celle-là pour moi.
Et ça, vous avez consulté les professionnels au niveau de l'aviation civile, peut-être pour justement adapter cette réglementation au contexte local, hein, ce qu'on entend là, des points très, très concrets.
Ce sont des points très concrets et tout à fait pertinents. Sur le processus pédagogique et méthodologique qui a été utilisé, on a la chance en Nouvelle-Calédonie d'avoir, ou en tout cas, j'ai la possibilité de croire qu'on a la chance d'avoir des acteurs en petit nombre, bien qu'il soit effectivement très dynamique, et le monde de l'ULM est un des domaines dans lequel on a un vrai dynamisme d'activité, on ne peut que s'en réjouir. On a un nombre faible d'acteurs et que l'on a la possibilité, comme nous l'avons exercé à de très nombreuses reprises au cours des dernières années, de pouvoir rassembler dans une salle et d'échanger. Je crois pouvoir dire que dans les autorités de l'aviation civile, par-delà les océans qui sont autour de nous, rarement les consultations et les échanges et l'accompagnement des acteurs économiques, que ce soit sur la partie ULM ou que ce soit sur la partie drone tout particulièrement, ont été aussi étroits. Donc le but, ce n'est absolument pas de créer des choses qui sont soit inapplicables, soit inopportunes. Le but, c'est de prendre l'existant avec des fondements de sécurité reconnus au niveau international et faire en sorte de les adapter en tant que de besoin aux spécificités de la Nouvelle-Calédonie, mais à partir du moment où on arrive à garantir aux usagers calédoniens l'atteinte d'un niveau de sécurité équivalent. Et ces adaptations, elles sont discutées avec l'ensemble des acteurs. Aujourd'hui, sur le monde ULM en tant que tel, pour ceux qui ont regardé dans le détail les projets de loi du pays et de délibération qui est associé, ce ne sont que des grands principes et des grands objectifs de sécurité. Tout le détail va être dans un second temps pris par arrêté du gouvernement, et c'est dans la production de ces arrêtés du gouvernement que seront consultés l'ensemble des opérateurs pour recueillir leur propositions éclairées, sur la base notamment de l'atteinte d'un niveau de sécurité équivalent. Par contre, si je peux me permettre, il y a des lignes rouges qui ne seront pas dépassées, et c'est la responsabilité et l'exigence de la Nouvelle-Calédonie de faire en sorte que des recommandations extrêmement fortes de sécurité qui ont été formulées à plusieurs reprises par les entités d'experts responsables, je pense au BEA, je pense à la FF Plume, en l'occurrence la Fédération Française du LM, et l'ensemble des stratégies qu'elle déploie au niveau français pour améliorer globalement la sécurité de l'exploitation du LM. Ces recommandations-là devront être prises en compte parce qu'on ne saura pas, faire autrement dans ces cadres-là. Et il est évident que chacun peut avoir son opinion propre sur l'opportunité de quelque chose. Le rôle de la DAC, c'est de se fonder, de la direction de l'aviation civile, pardon, c'est de se fonder aussi sur la communalité d'expertise au niveau international.
Le débat se fera également au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Il est déjà midi 15 pour que tout le monde puisse bien s'exprimer. On va continuer le tour de table, savoir un petit peu comment vous avez aussi accueilli cette réglementation dans vos activités. Est-ce qu'il y a des points particuliers que vous appréciez ou que vous appréciez moins dans le projet qui est proposé ?
Ce qu'on apprécie, enfin personnellement, moi ce que j'apprécie d'abord et avant tout, c'est effectivement ce transfert de compétences. Moi je l'ai vu comme étant une très très bonne chose au départ. Ce transfert de compétences, j'ai vu comme une très bonne chose parce que je me suis dit que on aurait peut-être l'opportunité d'y adapter des choses qui sont bien plus en adéquation avec l'environnement dans lequel on travaille, puisqu'on fait essentiellement... comme disait Olivier juste à l'instant, c'est vrai que je suis entièrement d'accord avec lui. Et on fait essentiellement des survols maritimes et des choses comme ça. On a une île qui est toute en longueur. Il y a énormément de belles choses à faire. Je pense qu'on est effectivement des acteurs économiques incontournables pour la découverte de notre pays. Je pense qu'au niveau tourisme, on a quand même pas mal de choses à faire. Mais ça comporte énormément de freins actuels. On a effectivement énormément de freins. Et pour l'instant, personnellement, je ne suis pas optimiste. Voilà, je vais être clair avec vous. Je ne suis pas du tout optimiste sur la tournure que prennent les choses actuellement. Moi, je fais partie des vieux de cette profession. Je pense que moi, d'ici 2-3 ans, j'en aurai terminé avec ça, je passerai à autre chose. Il serait temps que je prenne la retraite. Mais je ne suis pas optimiste. Voilà, sincèrement.
Sur des points particuliers
Oui, il y a quelques points. Enfin bon, si je pense à un premier tout de suite qui me vient, on est limité par les distances que l'on peut parcourir, notamment avec nos machines. Bon, on a parlé du poids tout à l'heure. C'est vrai que c'est un frein. Aujourd'hui, dans le contexte économique actuel, on court tous, chacun, à essayer de maintenir nos entreprises en vie. Et je peux vous dire que c'est pas simple tous les jours. On ne sait pas comment on va régler nos factures à la fin du mois. Le secteur ne reprend pas. Il est moribond, il faut être clair. Et quand vous êtes limité à 40 km pour faire un baptême de l'air, alors qu'on a des machines qui, à l'heure actuelle, peuvent aller jusqu'en Australie, moi, par exemple, je suis sur Nouméa. Hein, je vais prendre mon exemple. Moi, je suis sur Nouméa. J'ai tous les jours des gens qui m'appellent pour aller faire un cœur de veau, et qui n'ont pas envie de se taper 7 heures de route pour aller voir le cœur de veau. Je ne peux pas partir de Nouméa pour faire un cœur de veau. Bon, en admettant que ça soit même... C'est vrai que la distance est quand même longue. Mais même aller faire un autre survol ailleurs, c'est pas possible. Donc la limite, si vous voulez, pour pouvoir exploiter et vendre nos produits, elle se limite à aller au phare à Médée et puis retour. Voilà. Donc... moi, je trouve ça... Moi, je suis chagrin par rapport à toutes ces choses-là, que j'espérais qu'elles évolueraient. Et bon, peut-être qu'avec avec nos acteurs de la DAC, il y aura encore moyen de discuter, puisque c'est vrai qu'on a quand même, comme le disait tout à l'heure Christophe, on a quand même pas mal d'échanges, il y a quand même pas mal de réunions. Pour autant, nous, on a besoin que les choses, elles avancent vite, parce que, je vous dis, au fur et à mesure, moi, j'en suis à un point, maintenant, de me dire combien de temps je vais encore tenir.
Est-ce qu'aujourd'hui, votre activité, elle est soutenue par le tourisme domestique, je suppose, essentiellement ?
Non, même on va dire que c'est du tourisme familial.
Oui.
Voilà. Ce que vous avez, c'est que... Alors, on a toutes les forces armées qui sont là pour protéger le territoire actuellement. Donc, ce sont des gens qui sont là pour de très, très courtes durées, on va dire 2 mois. Et c'est vrai que pendant les 2 mois, sur les rares temps de loisirs qu'ils ont, ils essayent d'en profiter un maximum parce qu'ils se disent qu'ils ne reviendront peut-être pas. Donc, on arrive à en capter quelques-uns qui nous font un peu voler. On a également tous les militaires qui sont là pour des périodes de 2 à 4 ans. Et forcément, quand c'est un peu plus calme, la famille vient les voir et les visiter. Et à ce titre, on arrive à en récupérer quelques-uns. Mais ça reste quelque chose de très confidentiel.
Jean-Michel Rio, l'activité aéronautique, vous y croyez ? Vous avez lancé une formation dernièrement, la première de pilote de ligne sur le territoire. Il faut croire en ce secteur, selon vous ?
En tout cas, le secteur que l'on a choisi, c'est une niche, si je puis dire, c'est un créneau. Alors, je vous remercie de nous avoir invités, mais en ce qui nous concerne, on est aviation générale, on n'est pas concerné par la loi sur les ULM, mais effectivement, on a lancé au mois de septembre la première école de pilotes professionnels sur la Calédonie. On savait déjà qu'il y avait entre, on va dire, 15 et 22, 25 Calédoniens qui partaient tous les ans en métropole ou ailleurs pour se former au métier de pilote professionnel. Et on a jugé qu'il était opportun de démarrer cette activité à Nouméa pour offrir, tout comme à Tahiti depuis maintenant déjà 15 ans, la possibilité aux Calédoniens de se former sur place et qui, pour eux, revient à une économie de au minimum 20%.
Donc, pour vous, l'activité, elle a été lancée. Cette réglementation ne rentre pas en ligne de compte pour vous dans vos activités du quotidien.
Exactement, puisque là, vous êtes en train de parler d'ultra-légers motorisés et que nous sommes une école de pilotes professionnels qui travaillons dans l'aviation générale. Donc,
Vous regardez ça quand même avec un œil de professionnel, je suppose, tout ce qui se passe dans le cadre réglementaire.
Oui, je suis moi-même pilote d'ULM, mais à titre privé. En titre professionnel, pour nous, on n'est pas concerné par cette réglementation.
Et à titre privé, alors justement, cette réglementation, vous en pensez quoi ?
Alors, il faut que les choses soient faites sérieusement. On a trop vu de choses. Et je pense que les deux personnes qui sont à mes côtés ne sont pas représentatives de ceux qui, entre guillemets, ternissent quelque part l'image de l'ULM. C'est souvent les pilotes privés qui font de la mécanique eux-mêmes. Je prends Gunther, que je connais bien. Il fait entretenir ses machines par un mécano certifié, ce qui n'est pas le cas de tout le monde.
Ça, c'est quelque chose que vous avez constaté aussi au niveau de l'aviation civile, peut-être des manquements à la réglementation, peut-être des gens qui ne se comportent pas très bien et qu'il faudrait peut-être recadrer un petit peu plus.
En plusieurs éléments, et je réponds à votre question juste après, si vous me permettez, Nicolas. Juste pour repréciser, pour que ce soit vraiment clair dans l'esprit de vos auditeurs, tout le package législatif et réglementaire qui est produit concerne l'intégralité des opérations aériennes, au premier rang desquelles l'exploitation d'avions certifiés, d'hélicoptères certifiés et d'ULM. J'insiste sur certifié et j'y reviendrai après. Ce que Jean-Michel mentionne, et il a tout à fait raison, c'est que l'activité des organismes de formation en tant que tels, dans leur capacité à délivrer des programmes de formation initiaux et à l'ensemble des pilotes jusqu'à les sortir comme pilote de ligne aspirant, n'est effectivement absolument pas porté par ce paquet réglementaire, puisque en Nouvelle-Calédonie, cela demeure l'exercice de la compétence de l'État en tant que pilote volant sur des aéronefs certifiés. Ça, c'était juste pour la précision. Deuxième élément, pour répondre à votre question plus directement, sur la partie ULM, il faut savoir déjà, l'histoire, elle est importante en Nouvelle-Calédonie, on le sait tous autour de cette table. Sur la partie ULM, c'est important de savoir d'où ça vient. Parce que ce que Olivier Paul et Gunther Hickman mentionnent, et ils ont tout à fait raison, c'est qu'ils sont restreints dans leur typologie d'activité parce qu'ils exploitent des ULM et non pas des aéronefs certifiés. Ils pourraient tout à fait faire des activités similaires sans aucune contrainte avec des aéronefs certifiés dans un cadre où des exigences techniques sont posées, existantes, et sont d'ailleurs mises en œuvre par plein de structures, pas en Nouvelle-Calédonie, mais que ce soit en Polynésie française ou que ce soit sur le reste du territoire national. Les ULM, donc les ultra-légers motorisés, ce sont à la base des avions des aéronefs d'aviation générale. On en a de plein de sortes différentes, et d'ailleurs il y en a plein de classes différentes, puisqu'il y a 6 classes différentes d'ULM qui peuvent être exploitées en Nouvelle-Calédonie. On en a au moins 4 qui sont exploitées, à tout le moins. 5 même, récemment, puisqu'on retrouve des paramoteurs, vous en retrouvez à Poé aussi, pour compléter le panorama. On retrouve des pendulaires, qui étaient exploités notamment à Koné, mais il n'y en a plus. On retrouve des aéronefs ultra-légers qui sont de classe 3, des petits avions, pour parler vulgairement. On retrouve des autogires, et on retrouve des hélicoptères ultra-légers, des petits hélicos, qui sont aussi exploités. On a cette diversité sur le territoire, et c'est une richesse. Ces aéronefs d'aviation générale, initialement, et ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Fédération française du ULM qui le dit directement, qui fait quand même référence dans le domaine, ils n'étaient pas faits pour avoir une activité commerciale. Ils étaient faits pour promouvoir le développement de l'aviation légère et sportive et promouvoir justement ce tremplin vers derrière une passion exercée en France et en Nouvelle-Calédonie depuis longtemps et permettre le développement de cette activité. On a eu des tolérances qui ont été inscrites dans le dur de la réglementation depuis 2008, au niveau national et au niveau calédonien, bien évidemment, qui permettaient justement à des activités commerciales de voir le jour sous des contraintes fortes. Parce que ces aéronefs, je le rappelle quand même, ce ne sont pas des aéronefs certifiés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas validés ni vérifiés par l'autorité de l'aviation civile, et ils sont sous la responsabilité exclusive de leur propriétaire en termes de navigabilité, à savoir en termes de fiabilité. Donc, comme le dit Jean-Michel et comme le dit Günther, ces aéronefs en tant que tels, soit on a en face de nous des propriétaires consciencieux, qui appliquent les règles de manière propre et qui s'échinent à bien les appliquer, soit ils ne l'appliquent pas, mais dans l'histoire, cette navigabilité, donc, qui est quand même un fondement principal du fait qu'on ne casse ni la boîte ni les œufs au cours d'un vol, cette navigabilité elle n'est pas validée par l'autorité. C'est pourquoi on a eu des restrictions qui ont été imposées à la typologie d'activité qui était permise, et on pourra bien évidemment discuter du détail de ça, dans un second temps avec les acteurs.
Oui. Mais dans cette émission, parce qu'il ne reste que 4 minutes.
Mais je voulais juste mentionner, oui, une surveillance est effectuée par l'autorité de l'aviation civile de l'ensemble des acteurs, et d'ailleurs on est venu voir chacun de vous au cours des dernières années de manière régulière pour vérifier que les bonnes pratiques de sécurité étaient appliquées, même si cette surveillance, elle est assez ponctuelle sur les différents terrains, sur la partie ULM, pas sur les autres acteurs où cette surveillance est institutionnalisée. Pardon. Et je finirai juste par un dernier mot là-dessus, et c'est la dernière chose pour partager aujourd'hui avec vos auditeurs. L'accidentologie en Nouvelle-Calédonie, c'est des faits marquants de l'actualité, pour ceux qui n'en sont pas victimes, qu'on oublie assez rapidement. Pour autant, sur les 12 dernières années, on a quand même eu 20 accidents différents d'aviation certifiée et ULM, qui ont occasionné 20 pertes directes de structures, à savoir des aéronefs qui ne sont plus utilisables derrière, et qui a tragiquement coûté la vie au cours de 8 accidents différents à des personnes sur le territoire. Donc le but et l'exigence qui est la nôtre et qui est celle portée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, c'est ne pas de dire au niveau mondial on va stopper les accidents dans le monde de l'aérien, mais par contre c'est une exigence de pouvoir prendre en compte le bénéfice et les enseignements acquis au niveau international pour se prémunir localement en Nouvelle-Calédonie des facteurs contributifs à ces accidents et travailler dessus avec les acteurs économiques du territoire.
Les professionnels que vous êtes, on a senti que c'était assez mitigé votre regard sur cette réglementation. Qu'allez-vous faire au cours des prochaines semaines, des prochains mois parce que là, on a évoqué la question des ULM notamment et de l'utilisation commerciale. Est-ce que vous allez essayer d'avoir gain de cause sur les points que vous avez soulevés? Et comment vous allez faire?
Bon, on se sent petit déjà. Je me vois pas aller contre tout ça, bien évidemment. Je vais travailler avec eux, je vais essayer de trouver des solutions. J'espère qu'on va arriver à trouver des solutions pour pérenniser notre activité.
Aujourd'hui, le modèle économique, il repose sur ces machines-là, en
ouais,
particulier.
Absolument. Ouais. C'est toujours pareil, quoi. On peut pas aller contre tout ça. Être libre, c'est être responsable. Moi, je préfère moi voir mon moteur que le donner à quelqu'un d'autre. En fait, c'est ce que je veux. C'est difficilement entendable. Mais moi, je veux voir ce que j'ai mis dans le moteur et c'est moi qui regarde ma machine. Voilà. Donc moi, j'irai dans le sens, bien évidemment, pour avancer, pour que tout le monde puisse voler et puis voir la Calédonie comme on la voit. Et puis je suivrai les règles, bien évidemment.
Pareil autour de la table.
C'est clair qu'on n'aura pas forcément bien le choix. On a une autorité, on est obligé de suivre ce que nous donne l'autorité. Néanmoins, je pense qu'avec tout ce qu'on... Et c'est un petit peu moi ce qui me chagrine, parce que c'est un package. C'est qu'actuellement, on est soumis à pas mal de règles, notamment en matière de sécurité, parce qu'on sait que c'est quand même la chose la plus importante pour nous. Néanmoins, on reste quand même les vilains petits canards de la profession. On parlait d'accidentologie tout à l'heure. Oui, une vingtaine d'accidents. Vous avez plus de 80 accidents ici tous les ans sur les routes en Calédonie, avec énormément de morts. C'est devenu un fait divers. Vous avez le droit de mourir sur la route. Par contre, quand ça arrive, une fois, tous les 2, 3, 4 ans, en avion, c'est quelque chose qui monte en mayonnaise et on jette l'anathème sur une profession qui, à mon sens, ne le mérite pas. Parce que des gens comme Olivier et moi, on fait ce qu'il faut pour que les choses évoluent différemment. On prend soin de nos avions, on prend soin de nos clients, on prend soin du travail que l'on fait. On a des exigences également. Notamment, on a une petite phrase qui nous gêne beaucoup, ils le savent, c'est que pratiquement, à chaque fois qu'on amène un client en vol, il faudrait qu'on lui explique qu'il a des chances de parvenir. Ça me fait mal au cœur.
Oui.
Voilà, d'avoir expliqué ça à mon client.
Alors qu'on va faire rêver le client.
On va le faire rêver, on va prendre énormément de points de sécurité en cause. Et puis, donc, il faut qu'on lui fasse signer un papier en lui disant « Tu y vas, mais c'est à tes risques et périls. » Voilà, c'est voilà l'exigence qui, moi, ne convient pas.
Eh bien, merci en tout cas à tous les cinq d'être venus dans notre studio pour débattre de ce projet de loi du pays visant donc à encadrer les opérations aériennes domestiques sur le territoire. Le débat aura lieu aussi au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Merci à tous d'avoir été avec nous.